sait proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Barthas.
Tout est va du pied. En 2003, la chaîne de restauration rapide McDonald's changeait son slogan pour adopter le désormais très fameux « Venez comme vous êtes ». Un slogan inclusif véhiculant l'idée d'un restaurant accueillant et ouvert à la diversité et à l'individualité de ses clients. McDonald's assumait ainsi publiquement d'inviter tout le monde inconditionnellement à sa table, encourageant les consommateurs à être fidèles à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à être authentiques. Ce slogan a indéniablement su s'adapter aux nouvelles représentations et aux nouveaux besoins de la clientèle en s'acclimatant à la fois à la culture de l'inclusivité, mais aussi à celle du no-fake, cette culture de l'authenticité toujours plus prégnante et qui semble l'expression d'un besoin de sincérité et de vérité dans un monde qui nous en priverait toujours davantage. Nous vivons à l'ère de la post-vérité, c'est même devenu un cliché de la conversation courante. Les IA sont théoriquement en capacité de générer des images entièrement fallacieuses d'Emmanuel Macron, retirant son masque de reptilien. Les informations que l'on nous donne alimentent nos croyances déjà établies, en jouant sur nos désirs et sur nos peurs. Nos téléphones nous retouchent à notre insu, les Français ont peur des vaccins, et le recours à la chirurgie esthétique continue, d'après les statistiques, d'augmenter fortement, surtout chez les plus jeunes. Ce diagnostic de post-vérité s'accompagne souvent de celui d'un nivellement par le bas, à la fois conformiste et individualiste de la conscience occidentale. Nos produits sont standardisés, mais aussi les images que nous consommons, nos comportements et les valeurs que nous affichons. Nos émojis influencent la façon dont nous exprimons et comprenons nos émotions, les paysages que nous observons obéissent aux règles de composition panoramique en vogue sur Instagram, ils sont galvaudés, ils sont kitsch, ils sont vus et revus. Nos œuvres d'art elles-mêmes paraissent pâtir du déjà-vu. Désormais reproductible à l'infini, elle pratique aussi plus que jamais l'art de l'échantillonnage et de la citation, rendant les notions d'auteur ou d'autrice élastiques, sinon complètement caduques. En ressort parfois une impression de vivre dans un monde autonome entièrement numérique, composé exclusivement d'images et qui se passerait de toute référence à la réalité extérieure, et donc à la notion de vérité qu'elle sous-tend. Devant le triomphe de cet hyper-iconisme, devant cette pérennité du fake, on serait bien tenté de diagnostiquer un peu vite la fin de l'authenticité. Pourtant, ce concept, loin d'avoir disparu, semble toujours aussi omniprésent dans les discours et dans nos idéaux de vie. Nous serions en manque de réalité, en manque d'honnêteté, en manque de naturel. Est-ce là la preuve même de leur disparition dans le monde réel? L'authenticité serait-elle devenue notre nouvel Éden, notre nouvel Eldorado perdu? Ou bien nous accrochons-nous seulement à un fantôme conceptuel, et ce parce que nous sommes trop lents à assimiler la révolution spectaculaire qui s'est opérée dans nos modes de vie au cours des 20 dernières années. Mais d'abord, qu'appelle-t-on authenticité? Si l'on s'en tient aux définitions du Larousse, l'authenticité est le caractère de ce qui est authentique, c'est-à-dire de ce qui est exact, véritable, comme une histoire peut être dite authentique, de ce dont l'origine est certaine, un tableau peut être dit authentique, et de ce qui est sincère, de bon cœur. L'authenticité, en tant qu'idéal de vie, semble donc s'opposer au faux, à la standardisation et au conformisme. Une personne dite authentique semble exprimer ce qu'elle est profondément et être capable de l'assumer sans recourir à des postures ni à des masques, c'est-à-dire sans tomber dans le jeu de l'hypocrisie sociale. Dans son étymologie, le terme d'authenticité est lié à la liberté vis-à-vis de toute forme d'autorité ou de convention, c'est-à-dire à l'autonomie. En grec ancien, authentikos désigne justement celui ou celle qui est capable de se déterminer par sa propre autorité, par sa propre loi. L'individu exprimerait de ce fait sa vérité, la vérité de son être, une vérité subjective et qui consisterait à dire « voilà qui je suis » au mépris des conventions. L'individu authentique, c'est celui qui fait tomber le masque pour mettre son âme à nu, à la manière de l'écrivain romantique Alphonse de Lamartine, qui déclarait dans sa préface aux Méditations poétiques en 1820 « Écrire non par respect des conventions, mais pour rendre sensibles les fibres mêmes du cœur de l'homme. » L'hypocrite, à l'inverse, est celui qui a l'art de porter des masques, qui joue et qui délivre un texte attendu et écrit à l'avance. Du grec ancien « hypocrites », qui signifie notamment « acteur ». Pour l'artiste moderne ou romantique, l'hypocrite correspond peu ou prou à l'image qu'il se fait de l'artiste classique, un artiste maniéré, docte et rigoureux, pour ne pas dire coincé. Il est courant de penser que les personnes authentiques sont rares, et elles-mêmes revendiquent parfois leur authenticité avec un orgueil qui se trouve au demeurant tout à fait exaspérant. Ainsi en est-il des personnes qui se déclarent franches ou entières, et qui pratiquent avec un aplomb certain l'art de la méchanceté gratuite et du commentaire mesquin non sollicité. Cette remarque visera spécifiquement les brutes que vous fréquentiez pendant votre adolescence, et qui ne pouvaient se retenir de critiquer votre nouvelle coupe de cheveux ou vos nouvelles converses contrefaites.
J'essaie simplement d'être honnête.
Pourtant, si les personnes qui sont authentiques nous semblent rares, force est de constater que le goût et la quête de l'authenticité sont collectivement partagés. Nos modes de consommation eux-mêmes changent et évoluent en manifestant de plus en plus cette prétention à l'authenticité. Nous investissons dans les objets le pouvoir de nous distinguer et, en nous singularisant, d'exprimer notre personnalité unique. Comme si l'unicité de nos possessions matérielles marquait du même coup l'unicité de notre être. Dans le grand jeu de l'authenticité, il faut faire feu de tout bois, tous les moyens sont bons. La mode semble aujourd'hui au handmade et au DIY, au vintage et au chinage dans les fripes plutôt qu'au shopping dans les centres commerciaux, au tatouage flash mais non réutilisable, au tourisme sauvage et friand de frissons naturels plutôt qu'aux étapes des guides touristiques. Sur les réseaux sociaux, nous partageons souvent les lives et les performances en présence de nos artistes préférés. Nous prenons des photos que nous voulons naturelles, avec un minimum de mise en scène, sans filtre, la panacée étant bien sûr d'être pris sur le vif, sans le savoir, dans un grand éclat de rire ou dans le feu de la passion. Bon nombre de gens iront jusqu'à affirmer avec orgueil leur refus de toute étiquette sociale, politique, identitaire ou sexuelle, quelle qu'elle soit, ce refus exprimant bien souvent à la fois la volonté confuse de se démarquer des autres et celle de se prémunir de ce qui est vu comme une atteinte à leur liberté et à leur individualité propre. Dans les librairies, les livres les plus vendus sont très régulièrement des récits à caractère autobiographique où une voix cherche à faire entendre sa vérité. Et le carton récent du récit de l'humoriste et écrivain Panayotis Pasco, ainsi que les succès de la prix Nobel de littérature Annie Ernaux ou encore de l'écrivain Édouard Louis, ne semble pas le démentir. Faut-il voir dans la popularité du genre autobiographique le symptôme d'une nouvelle génération qui serait, comme le disent certains managers de la Macronie, nombriliste, consumériste et narcissique? Ou bien est-ce là le symptôme d'un mal-être plus profond, lié à l'effacement de nos voix dans l'espace public, au déracinement collectif, bref, à la perte d'authenticité d'une expression sincère, personnelle et intime de nos intériorités. On en vient en effet à faire le constat que notre aspiration à l'authenticité est elle-même devenue, ironie du sort, un besoin tristement standard. C'est comme si nous cherchions, au travers de cette quête aux produits artisanaux et aux expériences de la vraie vie, à renouer avec qui nous sommes vraiment. Ce continent perdu de vue dans la course effrénée à la consommation de marques, à la gloire et à l'étiquette. Mais d'où vient donc cette aspiration presque obsessionnelle à l'expression de notre moi profond, cette détestation collective du fake, du standard, des grands ensembles et des pavillons de banlieues périurbaines? Pourquoi cet amour pour les canapés défoncés, les vieux appartements et les granges retapés, pour Animal Crossing et la personnalisation à outrance? Dans cette série de podcasts, je voudrais réfléchir avec vous aux origines de ce goût pour l'authenticité, et de ce dont il est le symptôme, mais aussi sur sa valeur. S'agit-il là d'un vain désir à abandonner? N'est-ce pas là se croire capable d'échapper à tout conditionnement, à toute posture acquise par l'éducation, à toute médiation par le regard des autres et par le langage? Ou faut-il y voir autre chose, comme un besoin de liberté et d'émancipation, comme une envie de créativité, comme un désir de sortir du culte de la performance? Comme la soudaine urgence, en somme et à l'instar de Billy Idol dans sa chanson Dancing With Myself, à pouvoir danser librement sans n'avoir rien à prouver. Vous écoutez Ben, et dans ce premier épisode, nous allons discuter du goût pour la vraie vie.
when there's no one else inside, but in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself.
Dans son ouvrage, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, publié en 1936, le philosophe allemand Walter Benjamin montre comment notre rapport aux œuvres d'art a basculé avec l'apparition des techniques de reproduction de masse, comme l'imprimerie, mais surtout comme la photographie ou le cinéma. Contrairement à la sculpture, à la peinture, à l'architecture ou même à une performance musicale en live, qui sont à chaque fois des œuvres ou des expériences originales en exemplaires uniques et non reproductibles, la photographie et le cinéma, en tant qu'art reproductible, ne disposent pas d'un exemplaire primitif, original et authentique. Au contraire, la caractéristique même de ces arts est de pouvoir être distribué partout et ainsi d'être expérimenté en tout lieu de la même manière, à la façon d'un enregistrement musical sur Spotify. Pour Walter Benjamin, notre époque aurait dès lors liquidé ce qu'il appelait l'aura des œuvres d'art, c'est-à-dire leur caractère authentique, singulier et expérimentable en un lieu et un temps bien précis. Grâce aux techniques d'enregistrement audio, photographique ou cinématographique, nous pouvons diffuser instantanément et à tout le monde des images du Taj Mahal ou des vidéos du concert auquel nous avons assisté la veille. Si on généralise le raisonnement de Benjamin, tous les objets de notre quotidien semblent aussi entrer dans cette logique de liquidation de l'aura. Les articles que nous achetons sont tous les mêmes, produits à la chaîne pour respecter des normes fixées à l'avance. Avec la standardisation et la massification des biens, l'être et l'avoir sont souvent accusés de se confondre. En 1962, soit plus de 13 ans après la publication du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, la marque Moulinex lançait la réclame « L'aspirateur libère la femme », entérinant ainsi le lien visiblement insécable entre l'être de la femme et la possession d'un appareillage domestique de bonne qualité. À l'adolescence, une des premières expériences du conformisme se fait par les lobbies de la mode. La possession ou non d'affaires de marque dans les collèges est souvent un facteur potentiel de stigmatisation sociale. Ce drame de ne pas posséder l'accessoire dernier cri peut se rejouer à l'âge adulte, toujours corrélé à cette angoisse de ne pas correspondre aux standards de son époque, comme le montrait déjà avec humour Boris Vian dans sa chanson « La complainte du progrès » en 1956.
Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette.
Quand se fait jour la nécessité d'établir un contre-discours à la consommation de masse, c'est souvent l'authenticité qui est mobilisée comme argument. Être authentique serait précisément se départir de cette injonction à entrer dans le moule de la consommation, à viser la banlieue pavillonnaire, la bagnole, le chien. Et souvent, pour refuser un certain type de consommation, le mieux est d'en vanter un autre. Ainsi, des modes de consommation alternatifs. Se trouver le meuble ou le vêtement de seconde main, par opposition au meuble Ikea ou au t-shirt Célio, c'est se chercher au fond l'objet auréolé de cette aura perdue dont nous parlait Walter Benjamin. Cette critique de l'impersonnalité de la société de consommation, qui est une des racines de notre penchant pour l'authenticité, est donc en vérité loin d'être neuve. En France, c'est mai 68 qui l'affirme le plus violemment. Le discours 68art nous incite à libérer nos désirs du carcan de la consommation, comme le révèle l'un de ses slogans « Cache-toi objet » écrit sur les murs de la Sorbonne. Cette fronde contre l'inauthenticité de notre style de vie se poursuit ensuite continuellement jusqu'à se généraliser dans de très nombreuses productions de pop culture qui s'en font le reflet constant. Les décors de la sitcom Friends, réalisés entre 1994 et 2004 par Martha Kaufman et David Crane, qu'il s'agisse du QG de la bande, le Central Perk et son vieux sofa orange dans un décor de café tamisé bourgeois bohème, ou bien de l'appartement de Monica avec ses poutres apparentes et sa vaisselle de grand-mère en porcelaine kitsch, sont complètement tributaires de cette recherche de l'objet authentique qui fera la différence et exprimera l'histoire de son possesseur, l'appartement lui-même étant censé être hérité de la grand-mère de Ross et de Monica. Autre exemple, la figure de la Pick Me Girl dans les séries télévisées et les livres, qui s'inscrit lui aussi dans cette haine générale du fake. La Pick Me Girl, littéralement la fille qui dit « choisis-moi », est une fille qui se voit et qui est décrite comme étant différente des autres, plus vraie que les autres filles, qui sont souvent réduites dans ces récits au stéréotype de la cruche superficielle dont la vie se résumerait aux garçons et à la manucure, ou bien à celui de la pimbèche populaire et machiavélique. La Pick Me Girl se définit donc toujours en faux d'une féminité standard souvent caricaturale et inexistante. La phrase « not like the other girls », littéralement « pas comme les autres filles », est devenue un tel stéréotype que de nombreux mèmes la reprennent constamment sur Internet. Cette thématique peut être interprétée comme une déformation de l'image d'héroïne féministe, comme celle d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen ou celle des quatre filles du Dr. March de Louisa May Alcott. Dans Orgueil et Préjugés, Elizabeth, Lizzie pour les intimes, n'est pas du tout une pick me girl, tout le contraire, puisqu'elle refuse d'épouser un homme pour sa fortune et aspire à un mariage d'amour. Dans le même temps, elle est aussi distinguée des autres femmes de sa famille. En se refusant au jeu de la complaisance, elle tranche assez radicalement avec ses sœurs et avec sa mère dès le début du récit, et c'est d'ailleurs la seule qui a l'air d'entrer véritablement en connivence avec le père de la famille et à comprendre son ironie. Très vite, le lecteur constate que c'est aussi au travers du regard de Monsieur Darcy qu'Elizabeth lui apparaît comme étant différente des autres, trouvant par là la grâce de l'authenticité aux yeux d'un homme presque misanthrope et qui considère tout le reste de leur société comme un immense jeu de dupes et de faux-semblants. De la même façon, la deuxième des filles du Dr. March, Josephine ou Jo, comme on l'appelle dans le roman, est elle aussi présentée comme frondeuse, colérique et indépendante, si ce n'est comme un garçon manqué. Ses manières en font quasiment la seule des quatre filles du roman à nous paraître véritablement authentique, si l'on ne compte pas sa sœur Bev qui meurt prématurément, et ce parce que Jo est la seule qui ne semble pas, en fin de compte, se soucier véritablement de son image, contrairement à ses sœurs. Ces deux héroïnes féministes ne sont pas du tout dans les apparences. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent nourrir à leur insu un certain imaginaire, celui d'une fille qui parviendra justement à séduire un homme en ayant l'air authentique et alternative. La Pick Me Girl peut ainsi être vue comme la tentative consciente et plus ou moins réussie d'être la fille qui s'en fout, l'héroïne féministe indépendante à la façon de Jo ou de Lizzie, mais qui demeure en vérité toujours complice du regard des hommes. Elle ne fait qu'imiter, mimer la posture de l'indépendance et de l'indifférence. Le trope de la Pick Me Girl nous permet de nous interroger sur notre perception de ce qu'est l'authenticité. Pourquoi déjà devrions-nous accorder plus de crédit au jugement sur l'authenticité d'une femme quand il provient d'un homme misanthrope, snob et orgueilleux comme Monsieur Darcy? Et de manière plus générale, ne peut-on pas soupçonner que cette quête de l'authenticité ne prenne toujours la forme d'une quête de la distinction et de l'originalité vis-à-vis de ce que l'on perçoit, pas forcément à raison, comme aliénant ou fake? Les observateurs les plus critiques trouveront en effet que ces stratégies visant à l'authenticité sont bien naïves. De manière générale, ce n'est pas parce qu'une personne est ou est perçue comme originale, anticonformiste ou encore minimaliste qu'elle est authentique. Car être authentique semble plutôt impliquer de se refuser à l'adoption d'une posture, c'est-à-dire à toute forme d'attachement à une certaine représentation, à une certaine image de soi ou de ce que l'on doit être. Or, lorsque nous voulons montrer que nous ne sommes pas comme les autres, nous nous attachons précisément toujours à une certaine représentation idéale de nous, basée sur une reconstruction de ce que sont les autres qui est d'ailleurs souvent biaisée, peu charitable et, dans le cas de la Pick Me Girl, franchement sexiste. La véritable authenticité consisterait à se présenter tel que l'on est, pour ainsi dire, spontanément, naturellement, sans contrainte ni préconception. Essayer de parvenir consciemment à l'authenticité en adoptant certains modes de consommation ou certaines postures, c'est donc paradoxalement risquer d'avoir l'air plus artificiel encore. La vision même de ce que nous appelons authentique dépendant toujours grandement de notre classe sociale et de notre éducation. Lorsque l'authentique devient la nouvelle trend esthétique des réseaux sociaux, il redevient du même coup une certaine catégorie d'autofiction, aussi pernicieusement fake que les autres. Dans son ouvrage No Fake, contre-histoire de notre quête d'authenticité, Jean-Laurent Casly montre de manière grinçante que cette obsession pour l'authentique a aussi mené à l'émergence de contre-cultures minoritaires, adeptes de la France qui fait vrai, c'est-à-dire celle qui mange des hamburgers et qui s'habille comme des instituteurs de la Troisième République. C'est cette nouvelle France de l'hyper-vrai qui en viendrait à condamner la fausse France, ou la France moche, comme étant fake et inauthentique. Cette attitude condescendante peut d'ailleurs donner l'impression que les classes populaires feraient le choix délibéré de vivre dans des grands ensembles HLM délabrés, et ce parce qu'elles seraient simplement victimes de leur mauvais goût standardisé. Il peut donc se cacher derrière ces discours un arrière-fond classiste, voire parfois d'un nationalisme assez nauséabond, qui en vient à oublier que le désir d'authenticité est aussi l'expression d'un privilège. Il existe même une compétition sous-jacente à l'authenticité, chacun cherchant à se trouver un style de vie qui a l'air plus authentique que celui de son voisin. Cette compétition se matérialise notamment sur Instagram dans le tourisme. La critique du tourisme de masse est devenue un stéréotype sur les pages de voyageurs et voyageuses qui valorisent en règle générale le caractère sauvage des lieux visités, mais aussi la rencontre avec l'altérité, c'est-à-dire avec le mode de vie propre aux populations locales. Dans son ouvrage, Jean-Laurent Casly appelle ce type de tourisme le « tourisme existentiel », qui considère avec dédain le tourisme récréatif, en partant du principe que de tout voyage, il faut tirer un enseignement. Fini la détente et les transats, ici on prend son carnet et on écrit des impressions à chaud sur l'italien dans son habitat naturel. Cela peut encore une fois faire sourire, dans la mesure où pour aimer s'épuiser à crapahuter dans les petits villages typiques de l'Italie, il faut déjà avoir le privilège de ne pas faire une activité professionnelle pénible le reste de l'année. Ce type de tourisme n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'un des principes d'enquête de l'ethnologie, celui de l'observation participante. Ce principe veut notamment que lors de toute enquête, l'observateur d'une société et de ses coutumes ne la regarde jamais de l'extérieur, mais au contraire toujours de l'intérieur, en participant comme un membre volontaire à l'ensemble de ses activités, et ce pour mieux pénétrer la mentalité de la population observée. Le tourisme authentique serait donc celui qui fait montre, contrairement au tourisme superficiel ou récréatif, d'une véritable immersion dans un nouveau mode de vie, si possible radicalement différent de celui de nos sociétés occidentales. Inutile de préciser qu'il faut manifestement avoir un sacré melon pour s'improviser ethnologue et pratiquer cette forme de tourisme. Quoi qu'il en soit, cette quête acharnée à l'authenticité court donc le danger d'être réinvestie dans une forme de guerre du paraître, où il s'agit de se distinguer toujours plus des autres par son implication dans la vraie vie. L'une des personnes enquêtées par Jean-Laurent Casly explique que sa conception de l'authenticité se distingue de celle qui est proposée par certaines chaînes franchisées, où les employés sont tous en uniforme et vont parfois jusqu'à tous partager et imiter des comportements franchement stéréotypés. Il privilégie de son côté les cafés et les brasseries humaines, celles où l'on peut rencontrer des gens qui ont l'air vrais, c'est-à-dire avec leur maladresse, leurs défauts, leur épaisseur de vie et leur caractère bien trempé. Si bien qu'on aboutit à des incohérences au niveau social. Pour certains, le comble de l'authenticité, c'est la brasserie Georges ou les Bouchons de Lyon, avec leur cuisine bien franchouillarde et leur nostalgie passéiste des années 20. Pour d'autres, c'est encore trop fake, et ils privilégieront plutôt les ambiances de café des années 80, avec leur cafetière à l'italienne et leurs bornes d'arcade. Le réseau social BeReal, lancé en 2020, se targuait d'être un anti-Instagram en ce qu'il contraignait ses utilisateurs à prendre une photo de leur quotidien à un instant aléatoirement défini, afin de montrer leur vraie vie plutôt que leur vie idéale. Il en demeure que notre perception de la vraie vie reste biaisée par les amis que nous côtoyons sur ce réseau. pour m'exprimer en mon nom, les chances de trouver sur mon application des selfies dans des cafés de centre-ville, devant un bureau à la maison, dans des bibliothèques ou dans des librairies alternatives sont très grandes. La bulle numérique dans laquelle nous vivons, loin d'être éclatée par cette alternative, est à l'inverse complètement renforcée. Aussi pourrait-on se demander de quelle authenticité parle-t-on ? Qui parle quand il est question d'authenticité ? Et plus profondément, est-ce que ce goût pour l'authenticité n'est pas ce qu'il y a de plus construit ? Un goût qui, comme le dirait le sociologue Pierre Bourdieu, ne fait que refléter un certain habitus, c'est-à-dire une certaine manière d'être conditionnée par la société. Pour échapper à cette critique de la pratique actuelle de l'authenticité, il faut donc revenir à sa définition rigoureuse. Loin d'être un style de vie, c'est-à-dire une certaine forme, apparence que l'on souhaite donner à sa vie, l'authenticité doit d'abord se caractériser comme une attitude d'ouverture face à la vie, c'est-à-dire comme le fait de refuser toute forme de représentation de soi au profit d'une sorte de lâcher-prise, afin que notre être se donne spontanément dans sa pureté. En d'autres termes, l'authenticité n'est jamais de l'ordre du paraître ou de la posture consciemment adoptée, mais toujours de l'ordre de l'être qui se manifesterait naturellement. Il faut en somme s'extraire de ce que Sartre nommait au milieu du XXe siècle, dans ses ouvrages « L'existentialisme est un humanisme » et dans « L'être et le néant », la mauvaise foi. La mauvaise foi est une attitude qui consiste pour le sujet à nier sa liberté en s'appuyant sur des systèmes de croyances et des postures soi-disant obligatoires qui lui servent en fait d'excuses et de justifications. Dans son exemple le plus célèbre, celui du garçon de café, Sartre analyse le processus par lequel nous tendons à nous réduire à un rôle social et par là par lequel nous nous chosifions. Le garçon de café tend, lorsqu'il se prend à croire un peu trop au jeu que lui confère sa position sociale, à devenir sa propre caricature, niant par là sa liberté. Il va alors adopter le comportement qui correspond au bon garçon de café, ce même dans sa vie de tous les jours, comme s'il se réduisait à cette caractéristique. Il en est de même pour ceux qui vous disent agir avec impulsivité parce qu'ils sont béliers ou sagittaires. Sartre condamne donc la mauvaise foi en tant qu'attitude inauthentique. Il définit l'authenticité, à l'inverse, comme l'attitude qui consiste à accepter le fardeau de notre liberté, c'est-à-dire à accepter au fond la vacuité de notre être, qui ne se définit jamais que par ses actes et non par des caractéristiques ou une essence figée. À ce titre, autrui et la société elle-même, avec leur cortège étouffant d'étiquettes et de catégorisations hâtives, risquent par définition de contrarier notre désir d'authenticité. La fameuse phrase de Sartre dans Huis clos, « L'enfer, c'est les autres », nous rappelle en effet que nos interactions avec autrui risquent toujours d'être vécues comme des violences, car autrui tend à nous ramener à ce qu'il pense connaître de nous, à des listes de caractéristiques et d'informations qu'il détient à notre sujet. En bref, le regard d'autrui nous réifie. En tant que femme, en tant qu'homme, avec telle apparence, telle ethnicité, telle façon de parler, etc. De même, la société tout entière nous renvoie aux catégories auxquelles nous appartenons. Le sociologue Erving Goffman, inspiré par Sartre dans l'écriture de son livre publié en France en 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, fait ainsi l'hypothèse que nous performons tous, à la manière d'acteurs et d'actrices, notre situation sociale en présence des autres. Dans une interaction entre une épicière et un professeur d'université, chacun des partis va non seulement rejouer les représentations liées à son emploi, mais encore à son genre et à sa classe sociale. Le jeu social peut être si étouffant et nos interactions tellement perverties par notre peur du regard extérieur et par la conscience de notre position dans le corps social, qu'on en vient presque à se demander si la qualité même de toutes nos expériences n'est pas devenue entièrement, irrémédiablement, inauthentique. Nous tendons à agir comme si le regard d'autrui pouvait nous assaillir à n'importe quel moment, ce que l'augmentation des dispositifs de surveillance ainsi que des objets qui peuvent nous renvoyer notre propre image n'arrange absolument pas. Les cas cliniques de phobie sociale et d'anxiété sont en forte augmentation, à la fois parce que nous perdons l'habitude de la fréquentation des autres et parce que nous maintenons en même temps en permanence notre image. Dans son ouvrage « Surveiller et punir » paru en 1975, le philosophe Michel Foucault explique comment notre société est, à l'aide de ses dispositifs optiques permanents, devenue une société de contrôle et de surveillance, bref, une société de l'hypervigilance. Pour analyser ce processus, il reprend dans une analogie le dispositif de surveillance carcérale imaginé par le philosophe Jeremy Bentham, le panoptique. Le panoptique est une tour centrale placée dans une prison à l'architecture circulaire et qui permet à un seul gardien de surveiller en même temps tous les détenus sans que ces derniers puissent savoir s'ils sont surveillés ou non. L'avantage de ce dispositif est de pouvoir contrôler le comportement des détenus à chaque moment, y compris lorsque personne ne se trouve effectivement dans la tour, puisque les prisonniers ont toujours le sentiment d'être observés. Pour Foucault, le pouvoir a dès lors changé de nature. Il n'a plus besoin de passer par l'exercice direct de la force, puisque nous en venons à nous auto-observer et donc à nous discipliner. Parce que nous nous savons en permanence potentiellement observables, nous sommes un peu comme des chats de Schrödinger, à chaque instant dans un état double, celui d'être observé ou non observé. En psychologie, on appelle ce phénomène l'audience imaginaire, la croyance ou la fiction selon laquelle des gens nous observent soit tout le temps, soit de manière beaucoup plus intensive que la normale. Cette conscience envahissante de notre propre visibilité nous amène, à la façon des participants de télé-réalité, à avoir tendance à performer notre propre vie quotidienne. Au point où même TikTok est venu à nous priver du plaisir de danser seul et n'importe comment dans notre salon. Toute la matière de notre vie peut être à chaque instant transformée et retraduite en spectacle, si bien que le présent lui-même peut se dédoubler et être vécu de manière réflexive, au second degré, comme si nous étions en train d'évaluer à la manière d'un spectateur la qualité de ce que nous sommes en train de vivre au moment même où nous le vivons. Dans son ouvrage « La société du spectacle », publié en 1967, le philosophe situationniste Guy Debord considère que la transformation de toute la matière de nos vies en spectacle est la dernière perversion de la société marchande. La logique de l'accumulation s'insère entre nous et notre expérience. Nous avons l'impression que nous devons collectionner des moments de vie dont nous sommes finalement de simples spectateurs et consommateurs. C'est comme si nous étions devenus incapables de nous penser comme des acteurs dans notre propre réalité, ou pour le dire à la manière d'Orelsan dans sa chanson « Si seul ».
Du temps d'avant, souvent absent, j'ai la tête ailleurs. Je m'entends parler sans conviction comme si je me voyais de l'extérieur. Toujours 60 minutes de retard au compteur. Tous les soirs je m'égare dans la 25e heure.
Devant une telle aliénation et un tel poids de l'image, on aurait presque envie d'abandonner en prenant des décisions radicales, comme celle de se couper à jamais de ses réseaux sociaux, voire carrément de la société tout entière. Afin d'être sûr, finalement, de ne jamais se donner en spectacle, de ne jamais devenir fake. Cet épisode laissera donc en suspens cette question. Faut-il, pour parvenir à l'authenticité, crever l'image, crever l'écran, crever toute forme de représentation, à la manière de Truman, qui à la fin du film Truman Show de Peter Weir, sorti en 1998, décide de ne pas continuer à jouer dans la série de sa propre vie. Faut-il, en somme, vivre caché pour vivre mieux, disparaître pour être, passer sous le radar du monde pour faire advenir son monde ?
The sun setting.
C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Bartas.
Tout est va du pied.